Oui, parce
bonjour.
Qu'on va...
Bonjour. Je n'inquiète pas, ne t'inquiète pas.
Non, c'est ça, parce qu'on va parler de politique américaine et de ce qui se passe aux États-Unis particulièrement. Oui. Et là, on va commencer avec quelque chose qui est quand même relativement chaud. Là. C'est, ça se passe à Bagdad, en Irak, et il y a des milliers de partisans là-bas qui ont attaqué l'ambassade des États-Unis aux dernières heures. Là.
Oui, c'est en réaction à des raids américains en Irak où il y a eu plusieurs combattants qui ont été tués. On parle ici d'Irakiens finalement pro-iraniens, donc qui sont supportés par l'Iran en Irak, donc qui ont voulu se venger et faire, je vous dirais, une action qui a vraiment choqué ce matin. Mm-hmm. Ils ont attaqué l'ambassade à Bagdad. On le sait, c'est dans cette zone verte qui est normalement beaucoup plus protégée. Donald Trump qui a réagi sur Twitter ce matin en disant que c'était en réaction à tout ce qui s'est passé, un Américain qui avait été tué. L'attaque de l'ambassade était par une faction irakienne soutenue par l'Iran et que l'Iran sera tenu responsable. Hier, on parlait justement dans le bilan du fait que l'Iran sera encore d'actualité. Ce conflit-là sera encore d'actualité. Et voilà que ça se mêle avec ce qui se passe en Irak. Donc, voir comment le président va réagir, parce que quand même, quand on attaque comme ça l'ambassade américaine, je vous dirais qu'il risque d'avoir une réponse assez sévère des États-Unis.
Et l'année 2019 avait commencé par une paralysie du gouvernement américain, d'ailleurs, l'année passée. On se souvient de cette espèce de psychodrame qui revient de façon régulière aux États-Unis.
Oui, on l'a évité cette année, mais l'année 2019, je vous rappelle, on avait eu le record, ce qu'on appelle un shutdown, donc une paralysie partielle du gouvernement américain, 35 jours de shutdown. Je vous rappelle le contexte, c'était on voulait construire le mur à la frontière avec le Mexique. Donald Trump qui ne voulait pas signer le nouveau budget, donc qui était vraiment en opposition avec Nancy Pelosi. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois que c'est arrivé. Ouais. Et il y avait eu un moment très, très célèbre où, dans le bureau ovale, il avait dit devant les caméras, devant les journalistes, écoutez, s'il y a un shutdown, je vais être fière de dire que c'est moi le responsable parce que c'est pour la sécurité des Américains, ça va être pour construire le mur. Mais son taux d'approbation avait chuté. Il y avait énormément d'Américains qui n'étaient pas d'accord avec ça et des Républicains également, parce que les gens, pendant la période des fêtes, n'étaient pas payés. Il y a certaines personnes qui devaient travailler sans salaire. Mm-hmm. Dans les aéroports, je vous rappelle que c'était le chaos. Finalement, ça s'était réglé 35 jours plus tard pour que le lendemain, il déclare l'état d'urgence nationale à la frontière pour finalement là, avoir ses fonds pour construire son mur qui... On ne sait jamais s'il est construit jusqu'à quel pourcentage actuellement. Là, il y a des débats à ce niveau-là, mais quand même, la construction du mur qui avait été entamée.
Et dans la catégorie mauvaise gestion de crise, la saga des Blackface en Virginie.
Oui, alors bon, ça nous a touché cette saga-là, je dirais, ici au Canada plus tard, mais ça, c'était vraiment l'histoire qui a marqué l'année dernière. Ralph Northam, qui était le gouverneur et qui l'est toujours le gouverneur de la Virginie, si vous vous rappelez, on avait retrouvé une photo dans son album de finissant de médecine. Non seulement, on dit que c'était une des deux personnes qui était sur la photo qui avait une Blackface, mais l'autre personne était déguisée en KKK, le Ku Klux Klan. Alors, rien de moins d'avoir cette image-là, ça avait vraiment choqué. C'était un gouverneur démocrate, donc les démocrates avaient appelé, eux, à sa démission parce que, bon, ça aurait été un peu cordonnier mal chaussé de critiquer tout ce que les républicains font, qu'on considère comme du racisme, et de dire que notre gouverneur démocrate, c'est correct ce qu'il a fait. Et ce qui avait été particulier, pourquoi je dis mauvaise gestion de crise, c'est que il s'était excusé en disant qu'il était une des deux personnes. Par la suite, il s'était rétracté en disant, finalement, j'ai bien regardé, c'est pas moi sur les photos.
Mais t'es pas connu.
C'est ça. J'en prends la responsabilité parce qu'il y a une erreur, c'est sur ma page, mais ce n'était pas moi. Et ce qui avait vraiment frappé l'imaginaire, c'est que la personne qui était sous lui, donc son lieutenant-gouverneur, pour accéder au poste de gouverneur, s'il démissionnait, lui avait été pris dans une histoire d'agression sexuelle. Et l'autre, en ordre de succession, le procureur général, qui avait aussi admis avoir eu un blackface pendant ses années d'université. Alors là, on était rendu à voir qui dans la hiérarchie, si tout ce monde-là démissionne, va pouvoir diriger la Virginie. Ça avait vraiment, vraiment choqué.
Impossible, en fait, de ne pas parler du rapport de Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, évidemment.
L'épine dans le pied de Donald Trump pendant 22 mois. Mmh. Je vous rappelle cette enquête sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. On avait toujours cette saga-là aux États-Unis qui a duré, je dirais, peut-être trop longtemps pour les Américains. En mars, on avait eu finalement 4 pages de résumé de la part de William Barr, le procureur général des États-Unis. On avait dit que Trump avait été blanchi au niveau du fait qu'il n'y avait pas une coordination avec les Russes pour faire cette ingérence à l'élection d'où il est sorti vainqueur, bien sûr. Mais la notion d'obstruction à la justice, en fait, s'il y avait eu un peu fait des pressions pour pour ne pas que l'enquête se passe bien. Il y avait James Comey, le chef du FBI, qui avait été limogé, entre autres. Mais ça, ça avait été une zone grise. William Barr, qui avait été énormément critiqué pour sa gestion de cette crise-là. Et le rapport, qui était une demi-lecture de table de chevet au mois d'avril dernier, 448 pages en deux volumes pour vraiment parler de ce qui s'est passé. Mais ça n'a jamais mené à des preuves que les démocrates attendaient pour destituer le président.
Par contre, l'histoire avec l'Ukraine.
Oui. Alors là, on passe un peu dans l'international et la politique intérieure. Bon, je ne vais pas vous rappeler toute cette saga-là parce qu'on en parle très, très souvent. Mais cet appel du mois de juillet avec le président ukrainien où on dit que Trump a fait pression et qu'il a retenu de l'aide militaire qui était nécessaire à l'Ukraine pour se défendre face aux Russes pour pouvoir les forcer à enquêter sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Ouais. C'est encore dans l'actualité. Il va y avoir le procès au Sénat normalement en janvier ou en février. On attend de voir quand les documents seront transmis au Sénat. C'est qu'il y a eu l'acte d'accusation qui a été fait le mois dernier. Donc ça va être l'événement d'actualité aussi en 2020.
Et en terminant, le Sharpie Gate lors du passage de l'ouragan Dorian.
Oui. Comment oublier, je dirais, cet épisode. Je vous rappelle, cette fois-ci, c'était lors du passage de l'ouragan Dorian. Donc, on avait cette trajectoire. Ça frappait, entre autres, la Floride. Et il y a Trump, le 1er septembre, qui avait dit que l'Alabama allait être durement touchée. Et là, il y avait un vent de panique en Alabama. Ouais. Les autorités recevaient énormément d'appels de citoyens qui disaient, ben, écoutez, nous, on n'a jamais été averti qu'on allait être frappé par un ouragan aussi fort, une tempête aussi importante. Et le service météorologique de l'Alabama qui avait dû écrire sur Twitter, ben, le président, ce qu'il a dit, c'est pas vrai finalement, vous n'êtes pas en danger en Alabama. Et ça se termine pas là parce que trois jours plus tard, le président, pour prouver son point qu'il y avait vraiment eu un danger en Alabama, avait présenté dans le bureau ovale, et on peut penser que c'est imaginaire, mais ça a vraiment arrivé, une carte avec, je vous fais l'imagination, le cône de la trajectoire, et on avait rajouté au crayon Sharpie, donc au feutre noir, un cône un petit peu plus grand pour toucher l'Alabama. On avait appelé ça le Sharpie Gate. Alors, on avait dû se rétracter pour dire que le président avait eu bel et bien cette information-là. Et ça ne s'arrête pas là. Et je vais lancer peut-être des fleurs à la campagne de réélection du président Trump parce qu'ils ont le don de trouver ces éléments-là qui accrochent les médias américains pour les ramener en leur faveur. Il avait décidé de vendre à l'époque des Sharpies à l'effigie du président Trump sur le site de la campagne de réélection du président en disant, ben écoutez, vous riez de ça dans les médias, on va l'utiliser, on va se faire de la publicité et pour que ça soit des fonds pour sa campagne de réélection en 2020. Alors ça, c'est mon petit coup de chapeau peut-être pour la campagne d'avoir su utiliser ça. Donc le Sharpie Gate, c'était au mois de septembre dernier.
Valérie Beaudoin, merci beaucoup. Puis on se retrouve jeudi.
Oui, je serai là sans faute.
Alors, on s'arrête un tout petit moment tout de suite après. On parle d'art et spectacle. On va entre autres parler du spécial du jour de l'an de En direct de l'univers. France Beaudoin sera avec nous.